Chapitre 45, le verset 5, c'est Joseph qui parle, il dit: maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé ici devant vous. Quelqu'un dit amen. Voici, nous sommes avec Joseph. Joseph, comme vous le savez, un des grands personnages de la Bible. Joseph a été vendu, trahi par ses frères, vendu en Égypte comme esclave. Et les circonstances de la vie et la main de Dieu vont faire que Joseph va devenir premier ministre d'Égypte. Je voudrais ce soir commencer par déclarer sur la vie de quelqu'un que tu as été peut-être trahi par ta famille, mais Dieu va tourner la trahison en bénédiction. Tu as peut-être été, on a menti sur toi, et ce qui fait que ta vie a été déformée. Ta vie n'a pas pris la forme qu'il fallait. Mais je veux déclarer sur ta vie que ce que les hommes ont fait, Dieu changera la malédiction en bénédiction. Dieu changera sur ta vie ce qui est courbé en ce qui est redressé. Quelqu'un dit amen. Joseph se retrouve en Égypte et devient premier ministre. Et environ 20 ans plus tard, il se retrouve avec ses frères. Et la déclaration qu'il fait, c'est ça qui va nous servir dans l'enseignement. Joseph dit: ne vous tourmentez pas. L'attitude normale pour quelqu'un qui nous a vendu en esclavage, c'est quoi? C'est de se venger, c'est de lui faire du mal, c'est de les emmener en prison. Oh, on a le pouvoir, c'est de les emmener dans une situation qui fait que ces gens peut-être perdraient la vie. Mais Joseph dit que Dieu s'est servi de vous comme des instruments pour que je rentre dans ma destinée. Dieu s'est servi de vous comme des instruments pour que je devienne l'homme que je dois devenir. J'aimerais déclarer sur ta vie que même dans le mal que les hommes te font, cela servira à l'avancement du plan de Dieu dans ta vie. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit je reçois. Dans les plans que les hommes font sur toi, même les plans de malheur, Dieu peut les tourner en ta faveur. Quelqu'un dit amen. Alors, Joseph dit que si je suis arrivé à la plénitude de ma destinée, c'est parce qu'il y a eu un concours de circonstances qui ont fait que je parvienne, et j'aimerais dire ça entre guillemets, à la royauté. J'aimerais te dire ce soir que tu parviendras à la royauté. Quelqu'un dit amen. J'aimerais te dire ce soir que tu parviendras au sommet. Quelqu'un dit amen. J'aimerais te dire ce soir que tu ne seras pas la tête, mais tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Quelqu'un dit amen. J'aimerais déclarer sur ta vie que tu ne seras pas en bas, mais tu seras en haut par la grâce de Dieu. Quelqu'un dit amen. J'aimerais déclarer sur ta vie que tu ne seras pas pauvre, mais tu vas prospérer par la grâce de Dieu. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les hauts faits de l'Éternel. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur ce soir. Alors, ce qui nous amène à comprendre que Dieu a pour nous des plans qu'il a préparés pour nous devant l'éternité. Dieu a pour nous une destinée qu'il a préparée depuis l'éternité. Et Dieu préparera dans notre vie des circonstances, des événements pour que nous puissions rentrer dans notre destinée. Quelqu'un dit amen. J'aimerais que vous puissiez bien me suivre ce soir, parce que ce soir, c'est l'introduction en matière. Je vais poser beaucoup de fondations qui vont nous aider la semaine, à partir des semaines prochaines à pouvoir accélérer. Donc, je vous inviterai à prendre des notes. Nous avons dit qu'il y a dans notre système quelque chose que Dieu a programmé, que j'appelle un GPS, qui tend à nous diriger vers ce que Dieu a préparé pour nous. Il y avait dans Joseph un GPS qui le conduisait vers sa destinée. Ce que Dieu veut, c'est que tu parviennes à ce qu'il a préparé pour toi depuis l'éternité. Quelqu'un dit amen. Alors, il y a deux mots que je vais définir avec vous ce soir, puisqu'on parle de destinée. C'est le mot destin et le mot destinée qui vont nous aider ce soir à poser des fondations. Le mot destin. Le mot destin, c'est l'ensemble des événements. Parce qu'on pense qu'un destin, c'est seulement quelque chose d'arrêté, pas nécessairement. Mais un destin, c'est l'ensemble des événements qui composent la vie d'un être humain. Exemple, quelqu'un est né d'une bonne famille, mettons d'une famille royale, et cette personne décide de commencer à voler. Juste en le voyant en train de voler et de tuer des gens, vous pouvez dire quel sera son destin, n'est-ce pas? Bien qu'il est né dans une famille qui le prédestine à devenir un homme important, mais à cause des actes qu'il pose, les actes déterminent alors le destin. Donc un destin, ce n'est pas simplement quelque chose qui est arrêté, mais le destin, c'est l'ensemble des actes que vous posez. Amen. Certains d'entre vous étiez nés, et peut-être selon la famille où vous étiez nés, vous êtes nés d'une famille qui n'était pas riche, et vous étiez destinés à rester dans un pays pauvre. Mais vous avez fait un choix à un moment donné, pris une décision de dire « je ne reste pas dans la pauvreté, je m'en vais au Canada, je m'en vais vers le Nord ». Votre destin a changé à ce moment-là. Quelqu'un dit « Amen ». La deuxième des choses, un destin peut être aussi vu comme l'accomplissement du but pour lequel une chose a été créée ou un être a été créé. Un destin peut être vu comme l'accomplissement d'une chose, du but pour lequel une chose ou un être a été créé. Exemple, ce soir, vous êtes assis sur des chaises, n'est-ce pas? Mais maintenant, essayons de prendre. Si vous voyez une chaise, vous savez que le destin de la chaise, c'est quoi? J'ai besoin de vous entendre. C'est qu'on s'assoit dessus, n'est-ce pas? Donc le destin de la chaise, c'est qu'on puisse s'asseoir dessus. Donc si vous voyez un oiseau, vous savez que le destin de l'oiseau, c'est quoi? C'est de voler, n'est-ce pas? Donc dans ce que quand Dieu nous a créés, Dieu a mis en nous notre destin. Amen. Dieu a mis en nous. Nous pouvons altérer notre destin, mais Dieu a déjà mis en nous un équipement. Voilà pourquoi quand un arbre, un grain tombe, dans le grain, il y a déjà l'arbre. Il n'y a que les circonstances qui vont révéler la plénitude. En fait, quand tu vois un arbre, tu vois la plénitude de ce que le grain est. Tu vois la maximisation du potentiel du grain. Je suis en train de poser mes fondements avec vous ce soir. Le deuxième mot, j'aimerais que vous puissiez comprendre que Dieu ne nous a pas créés au hasard, mais Dieu nous a créés pour un but. Amen. Dieu nous a créés pour un but, Dieu nous a créés pour un plan particulier. Il se peut que vous soyez nés et vous n'avez jamais connu vos parents. Cela ne change pas que Dieu nous a tous créés pour un but et nous sommes tous importants aux yeux de Dieu. Quelqu'un dit « Amen ». Le deuxième mot que je voudrais définir ce soir, c'est le mot « destiné ». Le mot « destiné », je pense que la fille d'autre frère va peut-être s'appeler « destiné ». Quel nom merveilleux, ça tombe tellement doux. Le mot « destiné ». Le mot « destiné » peut se définir en trois mots. Le mot « avenir », le mot « sort » ou le mot « projet ». Le mot « avenir », le mot « sort », le mot « projet ». C'est ça que Dieu dit à Jérémie. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Dieu dit à Jérémie, « Car je connais le projet que j'ai formé pour toi, projet de paix et non de malheur. » Amen. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur ta vie. Dieu n'a pas prononcé sur ta vie des projets de malédiction, mais Dieu a sur ta vie des projets de paix et non des projets de malheur. Quelqu'un dit « Amen ». Quelqu'un dit « Amen ». Ainsi donc, nous sommes sur le chemin de la vie engagés pour aller vers notre destinée. Et j'aimerais vous donner une image que Dieu était en train de me montrer. Le chemin de la vie est comme une autoroute qu'on prend. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui prend l'autoroute de temps en temps en voiture? Voilà, pour ceux qui prennent la voiture, on s'engage sur l'autoroute. Lorsqu'on s'en va sur l'autoroute, chaque semaine et chaque jour, il y a des milliers, des centaines, des milliers de voitures qui prennent les autoroutes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces voitures-là prennent l'autoroute et l'autoroute va, ben, généralement, à moins que vous conduisiez à l'envers, dans une seule direction, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, c'est que chaque voiture monte sur l'autoroute avec une destination précise. Et une voiture à côté de l'autre ne sait pas la destination de l'autre véhicule. Mais nous semblons tous aller dans la même direction, n'est-ce pas? L'autre jour, j'étais en train de conduire et à un moment donné, un conducteur a fait une manœuvre parce qu'il y avait l'embouteillage. Et je l'ai suivi. Et quand moi je l'ai suivi, je me suis rendu compte qu'il allait dans un cul-de-sac.
Mais parce que je ne savais pas et que moi j'ai cru que nous allions tous dans la même direction. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Je suivis ces conducteurs-là. Vous savez, le chemin de la vie, de nos destinées, c'est ça. C'est que nous embarquons dans la vie et nous sommes assis les uns à côté des autres. Mais peut-être à côté de toi, il y a un premier ministre. Peut-être à côté de toi, il y a un futur millionnaire. Peut-être à côté de toi, il y a un futur président. Peut-être à côté de toi, il y a un futur grand homme de Dieu. Mais parce que nous sommes tous montés sur l'autoroute de la vie, les uns à côté des autres, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la voiture de mon voisin, mais nous sommes tous sur la même autoroute. Est-ce que je peux aller plus loin avec vous? Chaque véhicule qui monte sur l'autoroute semble aller dans la même direction, mais tous les véhicules ne prennent pas la même sortie. Êtes-vous avec moi ce soir? Vous allez comprendre la destinée. Tous les véhicules ne prennent pas la même sortie. Il y a des véhicules qui montent sur l'autoroute pour 5 km et ils sont arrivés à leur destinée. Il y a des véhicules, alors que nous montons, nous avons pris par exemple l'entrée de l'autoroute, l'entrée numéro 5. Il y a des véhicules qui sortiront à l'entrée numéro 700 qui est à Toronto. Mais il y a des véhicules qui embarquent simplement pour une sortie, pour deux sorties, pour trois sorties. Dépendamment de la destination, le véhicule va s'adapter alors. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Voilà pourquoi quelqu'un qui fait un voyage, et après ça je vais rentrer dans le pratique, quelqu'un qui fait un voyage de Montréal, et puis il s'en va à Toronto, est-ce que c'est logique qu'il fasse le plein de carburant? Oui ou non? J'ai besoin que vous répondiez oui ou non. Est-ce que c'est logique qu'il vérifie la pression de ses pneus? Est-ce que c'est logique qu'il vérifie s'il a fait la qualité de son huile? Donc la destination, est-ce que vous êtes avec moi ce soir? La destination détermine le comportement, détermine l'entretien du véhicule. Mais aussi la destination détermine aussi les capacités physiques par lesquelles celui qui prend le véhicule va entrer dans le véhicule. Tous les véhicules semblent aller dans la même direction, mais tous les véhicules n'ont pas la même sortie. Il y en a aujourd'hui qui ont la sortie peut-être simplement de s'arrêter à un petit ministère. Il y en a qui ont la sortie peut-être d'aller dans un ministère international. Il y en a qui ont leur sortie que Dieu a préparée pour eux, c'est de faire un doctorat. Il y en a que leur sortie, c'est simplement de terminer leur université et d'être monsieur, madame, tout le monde. Il y en a pour qui Dieu a préparé une grande destinée. Et j'aimerais vous montrer ça dans la vie de Joseph. Alors que ce jour-là, on vendait Joseph. Il a embarqué sur un chemin avec des marchands, mais les marchands ne savaient pas que dans la caravane, il y avait le futur premier ministre d'Égypte. Alors qu'il les marchands l'avaient pris, qu'il partait avec lui, qu'il était comme les autres esclaves. C'est ce qui est dangereux, c'est quand on se ressemble tous et on pense qu'on est tous la même chose. Ce qui nous rend différents des autres, ce n'est pas notre extérieur, c'est le contenu que Dieu a déposé en nous depuis qu'il nous a créés. C'est le contenu que Dieu a mis en nous depuis avant la fondation du monde, et ce contenu n'attend que de se révéler. Alors que Joseph embarque dans la caravane en train de pleurer, même lui ne sait pas qu'en lui, il transporte le futur premier ministre d'Égypte. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu transportes quelque chose de grand en toi. Ne te néglige pas. J'aimerais te dire, ne laisse personne te négliger parce qu'aujourd'hui, tu manques l'argent pour savoir comment payer ton autobus. Il y a quelque chose de grand qui dort en toi. Il y a quelque chose de grand qui sommeille en toi. Alors qu'on embarque Joseph, Joseph a l'impression que sa vie sera limitée par ses circonstances actuelles. J'aimerais dire sur ta vie que ta vie ne sera pas limitée par les circonstances actuelles, mais les circonstances actuelles serviront à Dieu d'un marteau pour faire éclater ce qu'il y a de grand en toi. Quelqu'un dit amen. Alors que tous les véhicules embarquent sur l'autoroute, tous n'embarquent pas pour la même raison. Vous êtes d'accord avec moi? Certains embarquent, vont sur l'autoroute parce qu'ils s'en vont au travail, ils s'en vont être productifs. D'autres vont sur l'autoroute parce qu'ils s'en vont en vacances. D'autres s'en vont parce qu'ils s'en vont à l'hôpital. D'autres embarquent sur l'autoroute juste pour faire un tour. Pour vous dire que sur le chemin de notre destinée, ce n'est pas tout le monde qui est vraiment sérieux. Il y a des gens qui vivent simplement la vie sans but réel, qui vivent la vie sans objectif réel, qui vivent la vie sans calculer, sans prendre des mesures réelles. Il y a des gens qui vivent la vie simplement comme ça. Mais parce que tu le vois sur l'autoroute et tu le vois dans un véhicule, tu dis « Ah, il est vraiment sérieux. » Non, il s'en va en vacances. Est-ce que vous me comprenez? C'est le chemin de la vie que nous embarquons. Tout le monde qui s'assied autour de nous, ce n'est pas tout le monde qui est clair, ce n'est pas tout le monde qui a des objectifs. Il y en a qui ont une destinée de Dieu grande en eux, mais qui ne sont pas sérieux avec la vie et qui tournent simplement en rond. Tu peux les appeler des frères, des sœurs dans la foi, mais ils n'ont pas encore découvert ce que Dieu a mis en eux. Alors ils sont sur l'autoroute simplement en train de gaspiller du carburant. Dis à quelqu'un, je ne gaspillerai pas le carburant de Dieu en moi. J'ai vraiment besoin d'un peuple de Dieu. Dis, je ne gaspillerai pas le carburant de Dieu. Je ne gaspillerai pas le carburant de Dieu. Dis à quelqu'un, il y a du carburant de Dieu en moi. Le carburant, là, c'est le temps que tu as encore à vivre. Le carburant, c'est le temps. Et voyez-vous, quand on embarque sur l'autoroute, c'est ça. Vous allez voir des gens qui embarquent sur le chemin de la vie, ils ne sont pas sérieux. Ils sont dans tous les critiques. Et j'ai dit toujours, le côté dangereux d'une critique, c'est que tu perds du temps précieux que Dieu t'a donné sur quelqu'un qui ne peut peut-être même pas affecter ta destinée. Il n'y a plus d'amen, hein? C'est pour cela que tu ne peux pas perdre ton temps à critiquer, parce que c'est du temps, c'est du carburant que tu es en train de gaspiller. Ce soir, je prends autorité sur toute forme de gaspillage de carburant. Je déclare sur ta vie que ton carburant sera utilisé de façon efficace. Sur l'autoroute de la vie, tous les véhicules semblent aller dans la même direction, mais tous les véhicules n'ont pas le même but. Tous les véhicules n'ont pas la même sortie. Certains sont prédestinés à une sortie à 5000 km. Quelqu'un dit amen. Nous pouvons dire que sur le chemin de la vie, tous les véhicules n'ont pas la même destination. Tous les véhicules n'ont pas le même niveau de carburant. Tous les véhicules n'avancent pas à la même vitesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Et j'aimerais terminer en disant ceci, que sur l'autoroute, alors que nous conduisons, que vous conduisez, que les conducteurs conduisent, ce n'est pas tous les véhicules qui sont autorisés à circuler. Il y a des véhicules qui sont... Il y a des gens qui conduisent sur l'autoroute de la vie avec des permis révoqués. Il y a des gens qui conduisent sans permis. Et ces gens-là n'ont rien à perdre, donc ils peuvent te cogner. Et toi, tu perds la vie. Il y a des gens dans la vie qui n'ont rien à perdre. Donc, il est là, son but, c'est de créer le plus de problèmes possible. Mais quand tu connais ce qu'il y a en toi, tu apprends à esquiver. Amen. Quand je prenais mon cours de conduite, mon professeur me disait, quand tu conduis, conduis pour toi. Conduis pas pour les autres, conduis pour toi. Sache que celui qui est à côté de toi est plus dangereux que toi. Il y a des gens qui conduisent sur le chemin de la vie, dont Dieu a déjà arraché le permis parce qu'ils ont commis trop d'infractions. Il y a des gens qui conduisent sans permis. Il y a des gens qui conduisent avec des permis valides. Il y a des gens qui conduisent avec des permis révoqués. Est-ce que je peux aller plus loin? Sur le chemin de notre destinée, après ça je vais rentrer dans le pratique. Là je vous donne d'abord la métaphore. Il y a des gens qui conduisent dans l'état d'ivresse. Il y a des gens dans leur vie là, ils sont ivres au volant. Vous savez, ils sont ivres au volant, pourquoi? Ils sont ivres au volant avec un péché qui consume leur vie. Ils sont ivres avec une obsession qui conduit, qui fait que leur sobriété n'est plus là, sur le chemin de la vie. J'aimerais te dire que Dieu a des plans pour toi. Quelqu'un dit amen. Dieu a des plans pour toi. Quelqu'un dit amen. Joseph dit à ses frères que Dieu a préparé toutes ces choses. Ce que vous voyez, c'est la manifestation de ce que Dieu avait préparé. Et la Bible dit que la création entière soupire après la manifestation des fils de la lumière. Mon frère, ma soeur, la chose la plus dangereuse, c'est de mourir et tu n'as jamais exploité ce que Dieu a mis en toi. Pourquoi? Parce que toute ta vie, tu as essayé de conduire prudemment, tu as essayé de ne jamais rien faire de grand. Mais au travers de ces enseignements, j'aimerais vous inviter, j'aimerais inviter chacun d'entre nous à arriver à entrer dans sa destinée, à entrer dans ce que Dieu a prévu pour lui. Et j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que quand on regarde la parole de Dieu, Dieu va prendre le premier homme qui va entrer dans la plénitude de sa destinée. Cet homme avait 75 ans. C'est pour nous dire que l'âge n'est pas un obstacle à ce que Dieu peut accomplir avec toi. Quelqu'un dit amen. Dieu, l'âge n'est pas un obstacle. Dieu dit à Jérémie, ne dis pas je suis un enfant. Frères, sœurs, à partir de maintenant, pour les prochains vendredis VIP, je veux voir des gens qui prennent leur vie au sérieux, qui prennent des engagements envers eux-mêmes, qui prennent la résolution que je vivrai sérieusement. Je veux me prendre au sérieux afin de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour moi. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quand on parle de destinée, il y a deux types de destinée. Et c'est là que j'aimerais m'arrêter avec vous ce soir. Deux types de destinée. La première destinée, c'est la destinée qu'on appelle une destinée naturelle. Exemple, c'est une destinée qui est liée à notre famille. Il y en a qui arrivent, ils ont une belle destinée parce qu'ils sont nés d'une famille riche. Amen. Donc, il y a des situations qu'ils ne vont jamais vivre parce qu'ils sont nés, ils avaient déjà un compte de banque rempli, ils sont nés directement au Canada, ils avaient déjà l'argent, ils avaient la carte d'assurance maladie, ils avaient tout. La destinée naturelle, c'est une destinée qui est liée aussi, comme je le disais, à notre condition économique. On est né d'une famille aisée, on est né dans un bon pays. La destinée naturelle est une destinée qui est liée aussi aux dons et aux talents que nous avons naturellement. Il y a des gens qui naturellement ils sont intelligents. Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont intelligents naturellement. Je veux dire, ils ont l'intelligence de l'école. Ils n'ont peut-être pas l'intelligence de la vie, ça c'est autre chose. Mais ils sont intelligents. Donc tu lui dis 4 fois 75, le temps que toi tu commences à réfléchir, lui il avait déjà la réponse. Oui, c'est facile. Et cet homme facilement se retrouve, il est professeur d'université. Pourquoi? À cause de la prédisposition naturelle des talents que Dieu a mis en lui. Alors cet homme, c'est facile pour lui d'avoir une destinée naturelle. Quelqu'un dit amen. Ensuite, la destinée naturelle est influencée aussi par les circonstances de la vie. Exemple, vous avez des gens qui sont nés dans un pays où il y a eu la guerre. Et à cause de la guerre, des viols et tout, ces gens n'arrivent pas, sont dans des conditions qui font qu'ils vivent malheureux, ils vivent dans des difficultés. J'aimerais vous dire que la plupart d'entre vous ici, vous avez quitté l'Afrique pour vous retrouver ici, n'est-ce pas? Dites-moi, qui d'entre vous aurait espéré être dans le froid ici de moins 35? Levez la main. Moins 35 du Canada. Personne. Pourquoi? Mais à cause des circonstances de la vie, votre destinée vous a conduit ici. Est-ce que vous me comprenez? Votre destinée vous a conduit ici. Et c'est ce que nous voyons dans la vie de quelques personnages dans la parole de Dieu. Le personnage de Gédéon, Juges chapitre 6, le verset 15. Quand Dieu rencontre Gédéon, Dieu salue Gédéon. Et Dieu dit, salut, vaillant héros. Gédéon dit, non, je suis le plus, je veux vous entendre, je suis le plus petit. Voyez-vous, sa destinée est déterminée par ses conditions et ses circonstances. Mais j'aimerais déclarer sur ta vie ce soir que ta destinée ne sera pas conditionnée par tes circonstances. J'aimerais te dire qu'au travers de ces enseignements, tu peux te lever et pour être un grand dans ta génération. Quelqu'un dit amen. Amen. Dieu va croiser dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 9, le verset 21. 1 Samuel 9, 21. Dieu va croiser Saül. Et Dieu parlera à Saül d'une grande destinée. Qu'est-ce que Saül dit? Je suis le plus petit. Encore une fois, sa destinée naturelle est conditionnée par ses circonstances. Quelqu'un dit amen. Combien de fois t'es-il déjà arrivé au travail, il y a un poste qui s'ouvre, tu sais que tu as les compétences,
mais tu regardes les circonstances.
Vous connaissez ces circonstances ici? Tu dis, ah, quelqu'un de ma couleur de peau peut-il vraiment appliquer pour avoir un tel poste? Et tu détermines ta destinée est conditionnée par tes circonstances. Je vais vous le montrer tout au long de la parole de Dieu. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, Dieu croise Moïse. Moïse, à ce moment-là, Moïse a 80 ans, je pense. Et Dieu dit à Moïse, va délivrer mon peuple Israël. Mais ça fait 40 ans que Moïse, c'est les circonstances de la vie l'ont emmené à ne plus croire qu'il y avait quelque chose de bon en lui. Les circonstances de la vie l'ont emmené à croire qu'il ne pouvait rien faire de bon. Et certains d'entre vous sont assis ici ce soir, vous êtes comme Moïse. C'est que vous avez vécu un tel choc que même si on te propose un projet qui est bon, tu dis non, c'est correct. Vous savez, tu as vécu peut-être une séparation qui fait que même si aujourd'hui tu croises une femme, un homme qui est vraiment intéressant, tu dis non, c'est correct, je ne veux pas, ça finira de la même manière. Mais j'aimerais te dire que Dieu a encore de projets de bénédiction sur ta vie. Quelqu'un dit amen. Dieu a encore des projets d'élévation sur ta vie. Quelqu'un dit amen. Dieu croise Moïse et Dieu dit à Moïse, va délivrer mon peuple Israël. Qu'est-ce que Moïse lui répond? Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Sa destinée est conditionnée par ses circonstances. J'aimerais parler aux Moïse qui sont assis dans cette salle, aux Moïse en qui Dieu a déposé des grands projets et qui dit, Seigneur, je ne veux plus être déçu par les hommes. J'aimerais dire de la part de Dieu que ce soir, à partir de ce soir, tu ne seras pas déçu. J'aimerais dire que ce soir, Dieu mettra un haron sur ta vie. J'aimerais dire que ce soir, Dieu mettra des hommes et des femmes sur ta vie. Si c'est pour toi, tu le reçois. Moi, je ne force personne. Mais j'aimerais te dire, tu as été déçu dans la saison passée. Ça fait 40 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que tu pleures sur quelque chose qui t'a déçu. Mais j'aimerais te dire, dans cette nouvelle saison que tu commences, Dieu veut mettre sur ta vie des hommes et des femmes qui vont aider tes projets à aller de l'avant. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit je reçois. Ces projets, sa destinée est conditionnée par ses circonstances. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, Dieu croise David. Et David, vous allez voir que David a en lui l'appel de la royauté, mais sa destinée, même sa famille lui dit, toi tu ne peux jamais aller loin. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ça dans sa famille? On lui dit, toi tu ne peux pas aller loin. On dit, toi tu es petit. Tellement que quand Samuel vient pour chercher le futur roi d'Israël, David n'est pas même pas considéré. Vous savez, on pourrait même l'appeler juste par chance, au cas où. Mais il n'est même pas considéré comme un enfant de la maison, il est laissé de côté. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir qui a été laissé de côté que Dieu est capable de repositionner. Dieu est capable de repositionner. Dieu est capable, je ne sais pas, je ne vous entends pas. Dieu est capable de repositionner. Dieu est capable de frayer un chemin pour toi. Peut-être qu'on ne t'a pas sélectionné. Peut-être que par la sélection naturelle, tu n'es pas sélectionné. Mais par la sélection divine, tu peux être sélectionné. Par la sélection divine, tu peux être mis à part. Quelqu'un dit amen. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, ce n'est pas dans mon habitude de prêcher, de faire des déclarations. Il peut te sembler que je le déclare de ma tête. Non, ce n'est pas dans mes notes. J'aimerais te dire, reçois ce que je te dis ce soir. Tu n'es peut-être pas sélectionné selon les hommes. Peut-être que tu as fait un concours d'emploi par lequel on ne t'a pas encore sélectionné. Peut-être que ton CV te dit que tu n'as pas les critères. Mais j'aimerais te dire qu'il y a la sélection des hommes et il y a la sélection de Dieu. Il y a le positionnement des hommes, il y a le positionnement de Dieu. Il y a le piston des hommes, il y a le piston de Dieu. Et je déclare sur ta vie, à partir de ce soir, que Dieu va te pistonner pour une élévation surnaturelle. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Matthieu chapitre 4, le verset 17 à 19. Juste prenez note. Matthieu 4, verset 17 à 19. Jésus arrive, il croise le disciple, il dit au disciple, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs. Dans le plan éternel de Dieu, ses disciples sont appelés déjà
à faire plus grand que la pêche. Mais regardez la destinée naturelle. Fais d'eux des pêcheurs. La destinée naturelle fait de Gédéon un peureux. La destinée de Dieu fait de lui un vaillant héros. Quelqu'un dit amen. La destinée des hommes fait que Saül se regarde comme étant petit. La destinée de Dieu fait que Saül, j'étais appelé depuis l'éternité à être roi. Quelqu'un dit amen. La destinée des hommes fait que Moïse se regarde comme un fugitif, mais la destinée de Dieu fait que Moïse, Dieu le regarde comme un libérateur. J'aimerais te dire que Dieu ne te regarde pas comme tu te regardes toi-même. J'aimerais te dire qu'en toi sommeillent des grandes choses de Dieu. J'aimerais te dire qu'en toi sommeille un grand homme de Dieu. Et vous savez, quand tu as tellement vécu avec ta destinée naturelle, là, tu as du mal à croire même ce que je te dis. Il y a un an de cela, aujourd'hui j'ai reçu un email. Je l'ai envoyé à mon épouse. C'est un email qui me vient de la Guadeloupe, des gens que je n'ai jamais vus. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils me disent, est-ce que tu peux envoyer tes messages, on aimerait diffuser ça à la radio. Parce qu'ils ont appelé à l'église. Ils ont eu la secrétaire nous a envoyé un email. Est-ce que vous me comprenez? Tu peux te regarder petit, tu mourras petit. Mais ce soir, au travers de ce message, je veux que tu te regardes grand. Je veux que tu te regardes puissant. Je veux que tu te regardes élevé. Je veux que tu te regardes comme étant quelqu'un qui va influencer ta génération. Frère, moi-même assis, quand l'email est arrivé, j'étais dans mon lit couché avec mon iPad et j'étais en train de préparer le message. Je vois un email qui rentre. Et là, je regarde. Invitation à la Guadeloupe. Au moment où je vous parle, ce soir à 3h du matin, heure de l'Europe, j'ai mes messages qui vont être diffusés, qui vont passer de l'Alsace en France jusqu'au Japon. Amen. Frère, on m'aurait dit ça. Frère, je vous donne mon exemple pour que vous croyez un exemple concret. Parce que si je vous parle peut-être d'un homme de Dieu de loin, vous ne croirez pas. Mais si on m'aurait dit ça il y a un an, ça aurait été impensable. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Il y a de cela, quelque temps, je parlais à mon épouse. Je dis, je sens que Dieu t'appelle au ministère. Ah non, laisse, parce que tu es mon mari. Je dis, il n'y a pas de problème. Cette semaine ici, si vous allez sur le site Enseigne-moi, c'est elle que vous voyez en train de parler. Frère, Dieu peut te prendre derrière. Non, vous n'avez pas encore saisi Dieu. Le Dieu que je parle, il peut te prendre derrière. Je suis venu te dire qu'il y a la sélection des hommes et il y a la sélection de Dieu. Je suis venu te dire, sur toi, il y a le doigt de Dieu qui veut te sélectionner pour une vie de miracle, qui veut te sélectionner pour une vie extraordinaire, qui veut te sélectionner pour une élévation extraordinaire. Ton problème, c'est que tu regardes la dictature, souligne le mot dictature dans tes notes, la dictature de tes circonstances, la dictature des circonstances dans lesquelles tu as été élevé. Et je suis venu te dire que le Dieu dont je parle ce soir opère une sélection surnaturelle ce soir. C'est que j'aime de Dieu, quand il sélectionne les incapables. Parce qu'il est capable d'équiper les incapables. Quand il sélectionne ceux qui sont rejetés. Parce qu'il est capable d'équiper ceux qui sont rejetés. Je veux que tu crois que Dieu peut faire des grandes choses avec toi. Je veux que tu crois que Dieu peut t'élever. Je veux que tu crois que Dieu peut transformer ta vie. Transformer tes circonstances au point que quand tu regardes ton passé, tu ne crois pas que toi, tu vivais dans une maison dans laquelle on a coupé l'électricité. Quelqu'un dit amen.
Amen.
Dis à quelqu'un, ma vie va changer.
Amen.
Dis à quelqu'un, ma vie doit changer.
Amen.
Dis à quelqu'un, ma vie doit être bénie.
Amen.
Ma vie doit connaître une élévation.
Amen.
Dis sur toi-même, je suis béni. Mes mains sont bénies. Mes pieds sont bénis. Ce que je touche est béni. Dieu accorde la grâce aux gens qui me rencontrent de toucher la bénédiction. Touche quelqu'un, dis-lui, la bénédiction t'a touché. Touche quelqu'un, dis-lui, la bénédiction t'a touché. Dis à quelqu'un, la bénédiction t'a touché. Dis à quelqu'un, la bénédiction t'a touché. C'est pour cela que frère,
Je ne presse jamais en fonction de l'auditoire que j'ai devant moi. Je ne presse jamais en fonction des circonstances. Mais au travers des circonstances, je me lève au-dessus des circonstances. Je me lève au-dessus des circonstances. Même s'il y a deux personnes devant moi, je prêche comme s'il y en a 10 000. Parce que je ne suis jamais... It's coming. Voyez-vous, parce que je suis comme David, quand Dieu t'amène devant Goliath, tu prends 7 pierres, parce que tu ne sais jamais quelle pierre abattra le géant de ta vie. Quand je fais le ministère, je fais comme devant 10 000 personnes, parce que je ne sais jamais quelle parole, je veux dire, va me positionner sur la map internationale. Je ne sais jamais quel message je prêche va me positionner sur une carte internationale. Tu ne sais jamais quelle main tu sers aujourd'hui va te positionner pour ta destinée. Ne néglige pas les circonstances que Dieu te fait traverser. Il y a la sélection des hommes. Écrivez ce qu'on fait pour ce soir, que le pasteur a dit qu'il y a la sélection des hommes, mais il y a la sélection de Dieu. Dieu a été éliminé par la sélection des hommes. La sélection financière t'a éliminé. La sélection émotionnelle t'a éliminé. La sélection naturelle t'a éliminé. Mais par la sélection divine, tu es positionné pour ton élévation. Par la sélection divine, tu es positionné pour être élevé. Par la sélection divine, tu es positionné pour connaître une vie miraculeuse, une vie d'élévation. Quelqu'un acclame le Seigneur très très fort ce soir et pousse le cri de joie devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est pour ça que j'ai compris que chaque message que j'emmène est comme une pierre que je lance au géant de ma vie. Je peux manquer la première pierre, je peux manquer la deuxième pierre. Mais la deuxième pierre, mais David dit, béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains en combat. Mais toi, à la bataille, je vais te dire, pour tout ce que tu as joué, ce n'était qu'un exercice. Ce n'était qu'un exercice. Ce n'était qu'un exercice. Dieu te positionne pour une élévation extraordinaire. J'aimerais que tu te dises à toi-même, je vais être élevé.
C'est comme ça que tu dis sur ta vie.
Frère, quand moi je dis ça, mon miroir est jaloux. J'ai dit à quelqu'un cette semaine, si vous m'avez dans votre compagnie, vous avez de la chance. Je lui ai dit, si je rentre, je transforme ta compagnie.
Amen.
Je lui ai dit, si je rentre, je transforme ta compagnie.
Amen.
Et puis deux, je lui ai dit, tu as de la chance, tu me payes un salaire.
Amen.
Frère, les prochaines semaines là, on parle grandeur.
Amen.
Je ne veux pas des gens qui viennent couper, je veux des gens qui viennent grands.
Amen.
Frère, j'ai dit, si tu me donnes un salaire, tu as de la chance. Parce que quand tu me donnes l'argent de ta compagnie connectée au trône de Dieu, et quand je donne dans la maison de Dieu, ton entreprise est bénie, ta fête.
Est-ce que je peux prêcher? Comme un fire. Ok.
Joseph rentre chez Potiphar. Amen. Joseph rentre chez Potiphar. La bénédiction n'est pas dans la vie de l'homme qui semble être en position d'autorité.
Alléluia.
Mais la bénédiction est dans la vie de celui qui est inférieur. Ce n'est pas parce que tu es un employé que tu penses que la compagnie est bénie, que c'est ton boss qui te bénit. Non. C'est toi qui as porte la bénédiction, parce que tu portes la semence de Dieu, parce que tu portes la parole de Dieu, parce que tu portes le feu de Dieu. Et quand Potiphar a compris que la bénédiction en réalité est dans l'employé et non dans l'employeur, il a élevé Joseph.
Amen.
Je m'aimerais déclarer sur ta vie que ton employeur est mieux de te donner une promotion pour que sa compagnie continue à prospérer.
Amen.
Non, vous ne le croyez pas. Les prochaines semaines, ça va être chaud ici. Je devrais le déclarer sur ta vie. Tu es béni de Dieu. Ton employeur est mieux de te donner une promotion pour que ta compagnie continue à prospérer. Lève-toi un moment, je vais déclarer sur ta vie. Lève-toi un moment, je vais déclarer sur ta vie. Alléluia. Je vais vous déclarer sur ta vie. Mon frère, ma soeur, reçois la parole. Je déclare sur ta vie les mêmes phénomènes qu'il y avait sur la vie de Joseph. Je déclare sur ta vie que même si tu es en bas, que c'est la bénédiction du lieu où tu te trouves qui dépend de toi. Tu es un facteur de bénédiction. Quelqu'un dit amen. Tu es un facteur de bénédiction. Quelqu'un dit amen. C'est toi qui emmène la bénédiction. Quelqu'un dit amen. C'est que tu touches et béni. Quelqu'un dit amen. Je déclare sur ta vie que Dieu te donne une intelligence surnaturelle dans ton domaine d'emploi. Je déclare sur ta vie que Dieu te donne un élargissement surnaturel dans ton domaine d'emploi. Je déclare que tous les plans qui sont faits sur ta vie pour te bloquer sont renversés ce soir au nom de Jésus. Je déclare que tu es un VIP. Là où tu marches, la vision de Dieu arrive. Je déclare que tu es un VIP, que tu agis avec les instructions de Dieu. Je déclare que tu agis avec la puissance de Dieu. Tu as quelque chose de surnaturel. Et je commande au surnaturel de Dieu dans ta vie de commencer à jaillir comme cela a jailli dans la vie de Joseph. Je déclare que là où on t'écrase les surnaturels de Dieu, là où on t'écrase la vie de Dieu en toi, la bénédiction te fait monter comme un ballon avec des rayons dans le nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un dit je suis sélectionné. Quelqu'un dit je suis sélectionné. Je suis sélectionné pour une vie de miracle. Je suis sélectionné pour une vie extraordinaire. Je suis sélectionné pour une vie extraordinaire. Les circonstances travaillent pour moi. Les circonstances travaillent pour moi. La terre m'est favorable. La terre m'est favorable. Quelqu'un aime le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Mon frère, nous avons dit vendredi, VI, vendredi, VI, ça veut dire very important person. Je veux que tu rentres ici le vendredi, même quand tu rentres, même l'air change. Quand tu marches là, on sait que cette personne est différente.
Amen.
Amen. Quand tu marches, on sait que tu es différent. On dit, madame, tu marches comme une patronne, tu dis effectivement, j'ai été prédestiné à ça.
Amen.
Joseph rentre dans la maison de Potiphar. La logique dit qu'il est béni d'avoir Potiphar comme maître, mais la sélection divine fait que c'est Potiphar qui est béni de l'avoir comme employé.
Amen.
Je déclare sur ta vie que ton patron est béni de t'avoir comme employé. Je déclare sur... Attendez. Je déclare sur ta vie, quand, même quand tu vas à l'hôpital malade, le médecin est béni même de te toucher.
Amen.
Il est béni. Il est béni parce que quand il te touche, lui-même ses maladies disparaissent.
Amen.
Frère, je suis venu prophétiquement ce soir. Quand le médecin te touche, lui-même des problèmes dans ta vie sont solutionnés.
Amen.
Quelqu'un dit amen.
Amen.
Tu es destiné à une vie extraordinaire. Tu es destiné à une vie de miracle. Tu es destiné à voir le miracle dans ton quotidien. Et je suis venu de la part de Dieu déclencher une séquence de miracles dans ta vie. Déclencher une séquence de choses extraordinaires dans ta vie. Déclencher une séquence de faveurs dans ta vie.
Amen.
Voyez-vous, quand tu n'es pas habitué à ce genre de message-là, tu m'écoutes comme tu dis, mais qu'est-ce qu'il a mangé? Frère, tu es béni.
Amen.
Tu es béni.
Amen.
Tu es béni.
Amen.
Je vais aller rapidement pour terminer ce soir, vous me permettez? Le problème avec la destinée naturelle ou le destin naturel, et c'est notre problème à nous, c'est que quand tu vis avec le destin naturel, c'est que tu es gouverné par les lois de la nature. Vous êtes avec moi ce soir? C'est que tu fais de gros efforts pour des petits résultats. Parce que la force qui le fait, c'est la force de ton talent. C'est la force de ton intelligence. Quand tu fonctionnes avec ta destinée naturelle, là, ce qui arrive, c'est que pour avoir 10 000 dollars, tu dois faire comme ça. Quelqu'un qui fonctionne avec la destinée surnaturelle, il prend 20 dollars, il met la bourse, il le met à 10 000 dollars.
Amen.
Est-ce que vous me comprenez ce soir? Le problème de beaucoup de chrétiens, la Bible regorge des promesses, mais ils vivent dans un destin naturel, celui qui a été dicté par la famille où ils ont grandi. Combien de chrétiens disent « Mon père était pauvre, moi je viens d'une famille pauvre. » Mais tu as oublié que tu es en Christ. Vous voyez, il n'y a plus d'amen. Hein? Tu as oublié que tu es en Christ. Combien de gens disent « Les changements de ma couleur de peau là ne peuvent pas appliquer à ce poste-là. » Mais tu as oublié que tu es en Christ. Là, on commence à traiter des vraies choses. Hein? Là, on commence à traiter des vraies choses. Quand tu vis dans ta destinée naturelle, tu vis avec le talent que Dieu t'a donné, c'est bien, tu vas avancer, mais tu vas avancer dans le logement. Voilà pourquoi les gens qui vivent avec la destinée naturelle, ils peuvent dire, oh, nous avons péché toute une nuit, nous n'avons rien attrapé. Ils croient quelqu'un qui a une destinée, qui vit dans une destinée surnaturelle, il dit, allez en pleine eau, j'ai été le filet. Une opération qui leur a pris toute une nuit a pris 5 minutes. Est-ce que vous me comprenez? On va achever ce message la semaine prochaine, mais je vais juste vous donner quelques éléments. Il y a la destinée naturelle. La destinée naturelle, c'est vos circonstances. Je prends par exemple mon frère ici, Jean de Mostel, qui est un excellent tailleur. C'est le talent naturel, c'est les choses qu'il a étudiées. Mais au-delà de la destinée naturelle, il y a ce que j'appelle la destinée divine. C'est ce que Dieu vous a mis en vous depuis que vous étiez petit. C'est ce que Dieu a planté en vous. Et ce qui se passe, c'est que quand nous vivons, on aime vivre dans notre zone de confort. Moi, naturellement, je ne suis pas quelqu'un qui parle devant les gens. Je suis très intimidé devant les gens. Mais à un moment donné, Dieu a révélé quelque chose en moi qu'il a fallu que je commence à travailler. Est-ce que vous êtes avec moi? La destinée naturelle des disciples, c'était quoi? C'est des pécheurs, n'est-ce pas? Mais quand Christ les croise, Christ leur montre que dans l'acte de péché se cache une destinée divine ou une destinée surnaturelle. Qu'en réalité, qu'ils ne sont pas appelés simplement à pêcher des poissons, mais si ils rentrent dans la destinée surnaturelle, ils peuvent influencer leur génération. Beaucoup d'enfants de Dieu produisent beaucoup d'efforts ou produisent peu de résultats. Frère, je vais te dire la vérité, quand j'ai compris ça, quand je prends une chose de Dieu là comme ça, ça peut être mort dès que je touche la viande. Je peux prendre n'importe quel endroit, n'importe quelle réunion, tu m'amènes, dès que j'ouvre ma bouche, la vie rentre. Tu sais pourquoi? Je suis dans ma destinée surnaturelle. Quand je suis dedans, les circonstances m'obéissent. Quand je suis dedans, je ne tombe même pas malade. Beaucoup des maladies, des situations que nous avons, c'est parce que nous nous accrochons à notre destinée naturelle. Moi, je suis comme ça, j'ai appris à être tailleur, et c'est tout ce que je serai toute ma vie. Mais Jésus va croiser Pierre, Jésus va croiser Jean, Jésus va croiser tous les disciples, il va leur dire, il va même croiser Matthieu. Matthieu qui était un péager. Il dit, moi, je sais faire la comptabilité. Jésus lui dit, la comptabilité c'est bon, mais c'est trop d'efforts de gesticulation mentale. Je suis venu parler à beaucoup de gens qui font trop de gesticulation mentale pour avancer dans la vie. Le talent naturel c'est bien, mais tu as besoin de que Dieu commence à te révéler ta destinée surnaturelle. Afin que tu commences à opérer avec une provision surnaturelle. Alors maintenant les chrétiens vont se dire, ah, mais c'est quoi ça encore? C'est quoi ce genre d'enseignement? Tu luttes pour rien. Quand je me retrouve dans le champ de ce que je fais ce soir, ma propulsion elle est naturelle et rien ne peut me bloquer. Je vais le répéter encore. Je te donne cet exemple parce que c'est le meilleur que je peux te donner. Voyez-vous, je vais vous expliquer. La destinée d'un aigle, c'est de voler à une très haute altitude. Mais le petit aiglon peut se contenter à voler avec des pigeons. Il est heureux. En fait, il avance, mais il a avec trop d'efforts. Vous savez pourquoi? Parce que naturellement, le type de vol que Dieu a prévu pour lui, ce n'est pas un vol en battant l'aile, c'est un vol en planant sur l'air.
Je suis venu parler aux aigles qui battent l'air pour avancer. Il faut planer. Quand tu t'ouvres ta destinée surnaturelle, tu commences à planer sur la vie. Tu commences à planer sur la vie. Mais trop de gens avancent dans la vie en battant des ailes. Et puis quand tu es un aigle là, tu es avec maintenant des pigeons, tes ailes sont trop grandes pour voler à leur niveau. Tu commences à faire du mal autour de toi, comme Moïse au départ faisait du mal autour de lui. Mais le même Moïse, quand Dieu lui a révélé sa destinée surnaturelle, ce qui donnait la mort a commencé à donner la vie.
Amen.
Quand Dieu lui a révélé sa destinée surnaturelle, le même Moïse, il a commencé à produire des résultats surnaturels. Le Moïse qui ne pouvait pas parler à Pharaon, parler et toute l'Égypte tremblait. Le Moïse qui ne pouvait pas parler à Pharaon, Moïse pouvait se tenir là et parler et tenir son bâton et la mer rouge s'ouvre. Quand tu rentres dans le plan de Dieu pour ta vie, tu verras des résultats surnaturels. Ton problème, c'est que tu es trop accroché à la vie que tu as connue depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, alors qu'au dedans de toi, tu sens que Dieu est en train de t'appeler à mieux que ça. Mais tu refuses parce que tu es trop confortable avec ta vie. Et voyez-vous, quand Jésus appelle les disciples, est-ce que ça vous bénit ce soir?
Amen.
Quand Jésus appelle les disciples, il dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » En d'autres termes, il dit « Je sais ce que vous pouvez devenir. Je sais que vous n'avez pas la capacité de le devenir par vous-même. Mais si vous me permettez, vous vous permettez de me suivre, je vais faire éclore quelque chose qui dort en vous. » Je disais à quelqu'un, je n'ai pas fait l'école biblique. Tout ce que je fais, c'est pure révélation. C'est pure révélation. Je m'assieds, je dors tout le monde, mon calepin à côté. Quand ça vient là, oh, je crie, pure révélation. Est-ce que vous me saisissez? Frère, il faut que tu découvres pendant ces enseignements quelle est ta destinée surnaturelle. Quand tu vas la découvrir, tu commenceras à planer sur la vie. Quand tu planes là, on dirait que, oh non, il a fait la magie. Ce n'est pas magie, c'est planer. Quand tu découvres là, on dirait, non, il manipule les gens. Comment ça se fait que, oh, tel serviteur de Dieu, il a seulement un secondaire 5, mais il y a 10 000 personnes. Parce qu'il a découvert ce pourquoi Dieu l'a créé. Et naturellement, il peut aller. Toi et moi, on peut aller dans l'eau. Mais si on nous met avec un poisson, déjà tu nages comme un Africain. Et puis maintenant, on te met avec un poisson. Est-ce que tu comprends que toi, tu vas te noyer, le poisson va dire, mais je ne comprends pas pourquoi tu te noies. Il me semble que c'est normal. Il faut que tu découvres ce pourquoi Dieu t'a créé. Il faut que tu découvres la paix de Dieu sur ta vie. Certains, Dieu les a appelés pour les affaires. Certains, Dieu les a appelés, comment dire, pour certains domaines de la vie. Certains, Dieu les a appelés. Quelqu'un peut appeler Dieu en médecine, mais Dieu lui donne une intelligence surnaturelle. Dieu appelle Daniel pour la gouvernance, l'administration, mais Dieu lui donne une intelligence surnaturelle pour faire ce qu'il fait. Quand tu rentres dans ce que Dieu a pour toi, tu développes un type d'intelligence surnaturelle. Tu deviens expert dans un domaine où tu expliques des choses que par ton intelligence là, tu ne peux pas comprendre comment tu expliques ça. Frère, il m'arrive qu'il y a des choses que je prêche, on me dit comment tu as... J'ai dit, je ne sais pas. Je dis à ma femme, je dois prêcher, mais je ne sais pas comment l'écrire. Est-ce que tu me comprends? Quand on est de moi, je sais comment ça va sortir. Je sais ce que je ressens, mais je ne peux pas le dire en mots humains. C'est quand je commence à prêcher que le Saint-Esprit maintenant commence à opérer. Mon frère, ma soeur, c'est ce que je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie que tu vas trouver le champ par lequel Dieu t'a appelé. Frère, une des raisons peut-être qui fait que tu ne prospères pas financièrement, c'est que tu n'as pas encore trouvé. L'homme qui a trouvé le champ dans lequel Dieu l'a appelé, cet homme-là, il prospère naturellement. Il ne court pas après l'argent, l'argent court après lui. Je déclare sur ta vie que l'argent va courir après toi. Je déclare sur ta vie que l'argent va courir après toi. Je déclare sur ta vie que tu seras expert dans un domaine et l'argent va courir après toi. Si c'est le ministère, tu vas exceller dans le ministère. Si c'est l'économie, tu seras expert dans ton domaine. Quand tu découvres ton champ d'activité, frère, ta race, ta couleur de peau ne compte plus parce que tu es un expert. Cette semaine ici,
Piqué Souba a donné combien à l'hôpital de Montréal?
10 millions.
Combien?
10 millions.
10 millions. Avez-vous remarqué qu'on n'a jamais cité sa couleur de peau? On n'a jamais, hein, sa couleur de peau, on n'a jamais dit. Hein, depuis des jours, des mois qu'il joue là. On dit de quel pays il vient, on dit jamais sa couleur de peau. Parce que quand tu découvres ton domaine, quand tu excèdes dedans, frère, ta couleur de peau n'a rien à voir avec l'élévation. Ma prière, c'est que pendant ces enseignements, que Dieu révèle en toi ce pourquoi tu es sur terre.
Amen.
Tu n'es pas sur terre pour accompagner les autres vers la réussite. Frère, je veux déclarer des paroles ce soir. Tu n'es pas là pour rendre ton bâton prospère. Tu es là pour prospérer.
Amen.
Tu es là pour prospérer. Dieu t'a mis sur terre pour prospérer. Et je déclare sur ta vie que le cycle de la pauvreté, de la disette est brisé ce soir dans le nom puissant de Jésus. Le cycle de la pauvreté, de la disette est brisé dans le nom puissant de Jésus. J'appelle sur ta vie la faveur. Alors que tu vas prier cette semaine pour découvrir le plan de Dieu pour toi, j'appelle sur ta vie une faveur surnaturelle. De la même façon que Joseph a trouvé faveur devant Potiphar, je déclare sur ta vie une faveur surnaturelle. Est-ce qu'on peut se lever à acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut se lever à acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très encore ce soir? Acclame le Seigneur, dis au Seigneur, je suis spécial à tes yeux, je suis spécial à tes yeux, tu m'as créé pour un but particulier. Il y a la sélection.